Bonsoir, eh bien, on va commencer. Donc, merci à vous de vous être déplacés malgré les conditions météorologiques. Et puis un grand merci à nos deux intervenants parce qu'ils viennent de Brest. Donc, tous les deux travaillent donc, à l'IFREMER et plus particulièrement au laboratoire d'environnement profond. Donc, nous accueillons ce soir Pierre-Marie Saradin, qui est responsable de l'unité d'écosystèmes profonds. Donc, vous allez voir, il va nous expliquer plus particulièrement de quoi il s'agit. Et puis, Marjolaine Matabos, qui est également donc, chercheuse à l'IFREMER, qui travaille plus particulièrement sur le milieu benthique, avec les animaux. Et voilà. Donc, on va voir découvrir de merveilleuses photos. Et puis, bien sûr, comme à notre habitude, après leur intervention, vous pourrez poser vos questions.
Bonjour à tous, on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît. Ouais, au moins ici, ouais. Bonjour à tous, donc merci d'être venus ce soir. On va essayer de vous faire plonger dans les abysses pendant trois quarts d'heure, une heure avec Marjolaine. Donc effectivement, moi je suis de formation chercheur. Je travaille dans un laboratoire d'écologie. Et l'écologie, c'est la rencontre des organismes. Donc Marjolaine est écologue et moi, je suis chimiste. Donc c'est la rencontre des organismes et de leur environnement. Alors, le menu du jour, du soir, donc on va d'abord vous faire un petit panorama du milieu profond. Ensuite, on va parler un petit peu de ces ressources qui sont assez convoitées. On continuera par les moyens d'accès qui sont vraiment une contrainte énorme pour pouvoir étudier ces environnements. Ensuite, on vous proposera de devenir explorateur et on terminera par quelques petits mots-clés suivis de vos questions. Donc voilà l'image la plus répandue que vous allez avoir de l'océan de la mer. C'est un espace infini, relativement plat de temps en temps. Mais en fait, cette image-là, elle est un petit peu faussée puisqu'on oublie la troisième dimension. La troisième dimension... Si on commence à plonger à l'intérieur, donc par exemple ici avec le Nautil, le submersible de l'Ifremer qui peut plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur, quand on arrive sur le fond, ben voilà ce qui se passe. Ah, on ne voit plus rien. Et on allume les projecteurs. Et on va s'apercevoir qu'on va avoir une diversité de paysages très très importante qu'on va découvrir au fur et à mesure justement de nos capacités d'accès à cet environnement. Donc d'abord quelques chiffres. L'océan profond, c'est quoi? C'est en dessous de la zone photique. La zone photique, c'est la zone où va pénétrer la lumière. Donc au-delà de 200 ou 300 mètres, on n'a plus de lumière qui pénètre. C'est une des caractéristiques principales de ce qu'on appelle l'océan profond. L'océan profond, c'est 66% de la surface de la planète, 307 millions de kilomètres carrés, donc c'est vraiment énorme. 93% de la biosphère, donc la biosphère, c'est toute la zone où on va pouvoir trouver de la vie. Une profondeur moyenne de 3800 mètres et une profondeur maximale de 11 000 mètres. Donc 11 000 mètres, c'est même supérieur à ce qu'on va trouver sur la Terre avec l'Everest. Donc on connaît tous les 8 ou 9 sommets de l'Himalaya qui sont supérieurs à 8 000 mètres d'altitude, mais on connaît très peu les quelques fosses qu'on va voir au fond de l'océan. On a des conditions qui sont extrêmes. On va avoir des températures de l'eau qui vont varier entre 0 et 4 degrés. Si on se rapproche des zones arctiques ou antarctiques, on va même avoir de l'eau de mer avec des températures négatives. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une absence de lumière, la lumière qui s'arrête à 200-300 mètres de profondeur. Une des contraintes énormes que vous pouvez avoir endurée si vous faites de la plongée, c'est la pression. La pression augmente d'un bar tous les 10 mètres. Un bar, ça représente à peu près 1 kg par centimètre carré. Donc imaginez 2000 mètres de profondeur, 200 bars de pression grossièrement, donc 200 kg par centimètre carré. Et 1 centimètre carré, c'est la taille de votre ongle de pouce. Et ensuite, donc on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de lumière, donc on n'a pas d'algues, donc on n'a pas de photosynthèse. Donc une grande partie de la nourriture va provenir de la sédimentation des particules qui sont formées en surface et qui vont petit à petit arriver sur le fond. Sachant qu'elles vont être en partie dégradées pendant leur descente, on va avoir très très peu d'énergie. Donc voilà un des paysages que vous allez trouver le plus communément. On est sur une plaine sédimentaire. Ici, on est sur une plaine abyssale à 2600 mètres de profondeur. Vous allez avoir quelques organismes de grande taille, des ophiures ici. Alors ici, c'est quoi, Marjolaine? Je ne sais même plus. Une holothurie. Donc c'est un environnement qui est surtout sédimentaire. Les apports d'énergie proviennent de la surface, donc ils sont très très limités. On va avoir par contre énormément de tout petits organismes qu'on va trouver dans les premières couches de sédiments, surtout dans les couches où on va encore trouver un petit peu d'oxygène. Et donc on va avoir ce qu'on appelle des diversités élevées, des espèces différentes, beaucoup d'espèces différentes, par contre des faibles biomasses animales, c'est-à-dire que ces espèces vont être relativement rares et avoir peu de matière organique. Si on continue à se promener, on est toujours dans ce qu'on appelle des plaines abyssales, mais cette fois-ci, on va trouver des nodules polymétalliques. Vous avez dû entendre parler de ces nodules il y a quelques années, puisqu'ils font partie des ressources minérales potentielles. Donc, ces nodules sont formés par la précipitation d'hydroxyde de fer et de manganèse autour d'un noyau, et on pense que ces nodules qui se forment durant des milliers d'années, cette précipitation va être aidée par des micro-organismes. On s'aperçoit aussi qu'on va trouver une faune très très particulière juste autour de ces nodules qui vont apparaître comme un substrat dur qui va être colonisé par des organismes particuliers et abriter une faune fixée, donc la faune qui va être fixée sur le substrat dur, et suspensivore, c'est-à-dire qu'elle va utiliser le matériel en suspension pour se nourrir. Et enfin, ces nodules vont être riches en cuivre, en nickel et en cobalt, donc des ressources minérales potentielles. Donc ici, vous avez encore une fois une magnifique holothurie. Et pour vous donner une petite idée de l'échelle ici, ces nodules vont faire entre 1 et 10 cm de diamètre. Donc ici, on a un organisme qui doit faire c'est une petite dizaine de centimètres ou une quinzaine de centimètres. On continue à se déplacer. Cette fois, on est sur les marges des continents et des monts sous-marins. Donc on est à 1500 mètres de profondeur, on est sur des zones colonisées par des coraux profonds, on est également sur des zones de substrat dur, vous voyez ici. Ces coraux vont utiliser également comme source d'énergie, comme nourriture, les apports provenant de la surface. C'est pour ça qu'on va les trouver dans des zones avec de forts courants, balayées par des particules. Et c'est leur forme ici qui va leur permettre de filtrer, de piéger les particules présentes dans l'eau de mer. Et ces coraux sont très très importants parce qu'ils vont former des massifs en trois dimensions qui vont servir d'abri, de nourricerie, de frayère pour tout un écosystème spécifique. Et ils sont toujours menacés par le chalutage profond. Vous voyez ici l'impact d'un chalut qui va dégrader tout ce petit massif, et ces organismes mettent également des centaines d'années à grandir.
Je vais juste ajouter quelque chose sur les coraux, parce qu'on connaît tous les coraux tropicaux, mais il faut savoir que deux tiers des espèces de coraux sur la planète sont en fait des coraux d'eau froide profond. Donc la plus grande diversité des coraux sont en fait trouvés en eau froide.
En 1977, une grande découverte pour tout ce qui était étude des écosystèmes profonds, ça a été le long de la dorsale des Galapagos, un environnement où la biomasse était exubérante. On a appelé ça les oasis des fonds des mers. Vous voyez par rapport à tout à l'heure la plaine abyssale, morne plaine, avec très très peu d'organismes. Cette fois-ci, on va avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'organismes de grande taille qui vont coloniser des profondeurs importantes. Ici, on est sur une source hydrothermale à 2200 mètres de profondeur au large des Galapagos. Donc la grande différence, on en revient à l'énergie. Vous voyez ici une plaine abyssale et ici une source hydrothermale colonisée. On s'est aperçu, donc la grande découverte, c'était que, donc en surface, on reparle de la photosynthèse, avec les plantes qui vont utiliser l'énergie solaire pour fabriquer la matière organique dont elles ont besoin, matière organique qui va être ensuite utilisée par tous les autres échelons de la chaîne trophique. Donc nous, on va dépendre, on ne peut pas fabriquer de matière organique, on est obligé de dépendre de cette photosynthèse. Et on a découvert sur le fond ce qui a été appelé la chimiosynthèse. Donc c'est des micro-organismes qui vont remplacer les plantes, qui vont utiliser l'énergie produite par l'oxydation de composés chimiques réduits présents dans le fluide hydrothermal. On va y revenir un tout petit peu tout à l'heure. Ils vont utiliser donc cette énergie chimique pour, en utilisant également les autres composants de l'eau de mer, fabriquer de la matière organique. Donc la base de ces écosystèmes ne sera pas la photosynthèse, mais sera la chimiosynthèse, donc ces micro-organismes capables de fabriquer de la matière organique qui va être ensuite utilisée par ces organismes-là. Donc c'est pour ça qu'on a, à travers les fluides hydrothermaux, beaucoup d'énergie présente, donc on va former des massifs d'organismes très très importants. Donc voilà à quoi peut ressembler une source hydrothermale. Vous avez ici un fluide qui va sortir à 300, 450, non, 350 ou 400 degrés. Ce fluide va être enrichi en sulfure, en métaux, en méthane. Les composés, les organismes vont utiliser les sulfures et le méthane en priorité, qui sont des composés réduits. Donc on va trouver ces écosystèmes le long des dorsales océaniques, donc les zones où les zones d'accrétion ou de plaques océaniques vont s'écarter, formant un nouveau plancher océanique. Et ça, tu en parleras tout à l'heure, Marjolaine, je vais un tout petit peu trop loin. Donc on est sur des substrats durs. On a des fluides qui sont chauds et acides chargés en composés réduits avec des gradients physico-chimiques très très importants. Donc imaginez ici une température à 300-350 degrés et ces organismes-là, ici ce sont des crevettes, ne supportent pas cette température. En quelques dizaines de centimètres, on va passer de 350 degrés à 2 degrés la température de l'eau de mer. Donc les organismes vont coloniser ces gradients physico-chimiques. Donc la base de la chaîne trophique, c'est la chimiosynthèse microbienne. Et cette fois-ci, tout à l'heure, je vous avais parlé de forte diversité, donc beaucoup d'espèces différentes et faible biomasse. Cette fois-ci, on a beaucoup d'énergie et on va se retrouver avec des faibles diversités, donc peu d'espèces différentes, mais par contre avec des densités énormes. Et on s'est aperçu aussi, à l'échelle géologique, qu'on pouvait avoir des instabilités temporelles puisqu'on va se retrouver dans des zones géologiquement actives. Quelques années plus tard, donc on se déplace encore un petit peu sur le fond de l'océan, on a découvert le long des marges continentales, dans des substrats sédimentaires ou des encroûtements, des zones énormément colonisées avec des organismes qui se rapprochaient un petit peu de ce qu'on pouvait trouver sur les sources hydrothermales. Et on s'aperçoit que, alors si vous imaginez la subsurface, on est dans des zones avec énormément d'accumulation de matière organique. C'est dans ces zones-là également qu'on va trouver les réservoirs pétroliers. On va avoir des émissions du méthane qui va percoler à travers le sédiment. Ce méthane va être transformé par des consortiums, donc des consortiums de micro-organismes. C'est plusieurs micro-organismes qui vont s'associer ensemble, qui vont réduire les sulfates présents dans le sédiment pour former des sulfures. Et là, on va se retrouver avec deux composés réduits, les sulfures et le méthane, et on va trouver également un écosystème qui est basé sur la chimiosynthèse microbienne. Et également, on va retrouver ici, comme dans les sources hydrothermales, une faible diversité, donc peu d'espèces différentes, mais par contre, des très fortes biomasses animales. Quelques années plus tard, on a trouvé aussi, donc ça c'est nos collègues de Hawaï qui ont énormément travaillé sur ces sujets-là, des carcasses de baleines, donc qui constituaient cette fois-ci des apports organiques massifs, donc énormément d'énergie qui arrivait sur une toute petite zone. Et ils vont servir vraiment de nourriture à une succession d'organismes qu'on a pu appeler des pierres de guet un petit peu plus tard. Donc voilà à quoi correspond les différentes étapes de dégradation d'une carcasse, qui peut durer quelques années. Au début, vous avez simplement les nécrophages qui vont venir manger la viande. Cette viande, ce gras va se décomposer et en se décomposant, former des matériaux, des composés réduits comme les sulfures. Et donc, on reparle de sulfure. Si on reparle de sulfure, on va reparler de composés de chimiosynthèse microbienne qui va donc accueillir toute une succession d'organismes. Au début, des nécrophages, des détritivores, des micro-organismes chimiosynthétiques tout au long de cette dégradation. Et enfin, en particulier, on parle aussi de ce ver qui s'appelle Ocedax, qui va creuser dans l'os et le dégrader pour s'en nourrir. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, on s'aperçoit que les écosystématiques profondes ne sont pas une morne plaine sédimentaire, mais suivant le substrat sédimentaire rocheux, la disponibilité de l'énergie détritique ou chimiosynthétique vont former une mosaïque d'habitats qu'on essaye d'étudier et de comprendre. Alors pourquoi on étudie justement ces écosystèmes marins? Donc d'abord, c'est la dernière frontière de notre planète. On a l'impression qu'on connaît beaucoup plus l'espace, la Lune, Mars, que le fond des océans. Ces écosystèmes sont également abritent une grande diversité d'espèces. Donc actuellement, il y a 3 ans ou 4 ans, et un programme international qui a essayé de recenser toutes les formes de vie marine connues, pas les micro-organismes, mais les organismes de plus grande taille. Et on arrive à peu près à 250 000 espèces connues à ce jour, bon, il y a 4 ans, bien sûr. Les estimations que ce programme a émis étaient de l'ordre de plus d'un million d'entre elles encore non découvertes. Donc on a encore énormément de découvertes à faire simplement sur des nouvelles espèces. On s'aperçoit également que ces espèces vont être adaptées à différentes variations de leur environnement, donc la pression, la température, les ressources en énergie. Et elles peuvent abriter des ressources potentielles. On a parlé tout à l'heure un tout petit peu de pêche profonde, de pétrole, de minéraux. Et on s'aperçoit également que ces zones-là, qui ont été déclarées patrimoine commun de l'humanité, la société a besoin de conserver certaines de ces zones un petit peu pristines sans avoir d'impact anthropique. Et on a énormément de mal à conserver ces environnements non impactés. Et donc, ils sont actuellement menacés par les activités humaines et l'exploration. Donc, une des premières ressources, c'est la pêche qui a été faite de plus en plus profond, avec des engins comme ici des chaluts de plus en plus impactants pour l'environnement. Et la pêche profonde a été interdite en Europe, tout au moins. Limité à 800 mètres de profondeur il y a quelques années. Ici, une autre des ressources qui est énormément exploitée, donc c'est le pétrole, avec actuellement les exploitations pétrolières de pilotes qui peuvent aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Donc avec la raréfaction de la ressource, les recherches vont de plus en plus profondes sur ces ressources, sur ces plateformes pétrolières. Et enfin, une autre ressource qui nous intéresse actuellement, parce qu'elle est très, très contemporaine, c'est tout ce qui est métaux qu'on appelle stratégiques. Donc on a besoin de ces métaux, premièrement parce qu'il y a des diminutions des ressources continentales. On a également, ce sont des ressources stratégiques. Par exemple, la Chine possède, je ne sais plus quel métal c'est, mais 98% des stocks de, je ne sais pas si ce n'est pas l'indium, j'ai oublié le terme-là. On a une augmentation énorme de la demande avec, on pense bien sûr au nucléaire, à l'automobile, mais surtout à tout ce qui est nouvelles technologies, donc les smartphones, les ordinateurs, etc., etc. Et enfin, on s'aperçoit que les pays européens ont une très forte dépendance vis-à-vis de ces métaux. Et on s'aperçoit également que les ressources marines seraient, avec un conditionnel, serait plus importante que les ressources terrestres. Alors, je mets ce conditionnel parce qu'à partir du moment où on connaît peu le fond d'océan, on a énormément de difficultés à estimer les stocks disponibles. Alors, quelles sont ces ressources disponibles sur le fond de la mer? Si vous regardez ici, on retrouve un petit peu les écosystèmes dont on a parlé tout à l'heure, avec ici des coraux profonds qu'on va retrouver sur des cimentes. Et sur ces cimentes, donc ce sont des îles immergées, on peut dire, on va avoir des encroûtements de cobalt et de manganèse. Donc, des encroûtements, c'est simplement des croûtes qui vont se former autour de ces cimentes et qui vont être très, très enrichies, notamment en cobalt et en manganèse. On va avoir sur les plaines abyssales, on l'a vu tout à l'heure, les nodules, donc qui sont formés quand même assez profondément, donc avec tout un écosystème associé. Et depuis une petite dizaine d'années, on va parler aussi des dépôts hydrothermaux, des sulfures massifs, qui, avec la précipitation de ce fluide hydrothermal en présence d'eau de mer, vont former des énormes dépôts de sulfure massif très très, très, très enrichis en métaux. Donc là, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, donc les sources hydrothermales sont vraiment en première ligne, avec des minéralisations qui seraient les plus enrichies par rapport aux autres ressources minérales, des minéralisations enrichies en cuivre, en zinc, en plomb, en cobalt, etc. Et actuellement, il y a plus d'une dizaine de permis d'exploration de ces ressources dans les eaux internationales. Et donc, je passe la parole à Marjolaine qui va vous parler un petit peu plus précisément des sources hydrothermales.
Donc moi je vais reprendre ici, puis je vais faire un petit peu le focus donc, sur ces fameuses sources hydrothermales. Hein. Donc, nous on travaille principalement sur cet environnement-là, Pierre-Marie et moi-même. Donc les sources hydrothermales, donc, il vous en a parlé un petit peu, en fait on va les retrouver le long des dorsales océaniques et des bassins aréarques dans le Pacifique, donc dans des zones qui sont volcaniquement et tectoniquement actives. Donc ici vous avez en rouge tous les sites actifs connus. En jaune, ce sont des sites qu'on suspecte parce qu'on est passé en bateau, qu'on a eu des anomalies de température dans la colonne d'eau, mais quelque chose qui fait qu'on pense qu'il y en a au fond. Et ici, vous voyez, il y a quand même encore beaucoup de zones de dorsale où il n'y a aucun point. C'est sûrement pas parce qu'il n'y en a pas, mais tout simplement parce qu'on n'y est pas allé et qu'on n'a juste aucune idée. Donc beaucoup, encore beaucoup de sites à découvrir. Donc le premier a été découvert il y a 40 ans sur la dorsale des Galapagos. Et le plus profond a été découvert en 2013 sur la dorsale des Caïmans jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Donc les sources hydrothermales, en fait, comment ça fonctionne ? Donc on les retrouve au niveau de ces dorsales océaniques, donc c'est à des zones où il y a une expansion du plancher océanique. Donc deux plaques vont s'écarter, et donc on va avoir une croûte très très fine qui va former des fissures. Donc dans l'eau de mer va pénétrer dans ces fissures et pénétrer en profondeur dans la croûte océanique jusqu'à la chambre magmatique. Et dans la descente, donc elle va perdre un certain nombre d'éléments comme le calcium, les sulfates, les magnésiums, et elle va aussi se charger en lessivant, donc en nettoyant un petit peu lessivant la roche, elle va se charger d'autres éléments comme des métaux lourds, des éléments radioactifs parce qu'elle perd son oxygène surtout, et elle va aussi se réchauffer au contact de la chambre magmatique. Donc là, on n'a plus de l'eau de mer, mais on a un fluide complètement transformé, très chaud, qui, sous l'effet de la densité, va remonter au niveau du plancher océanique pour former des grands fumeurs qu'on appelle donc les sources hydrothermales. Et donc ces fumeurs, quand ils sont purs, c'est un fluide qui sort à plus de 350 degrés, même au-delà de 400 degrés, qui est totalement anoxique, c'est-à-dire dépourvu d'oxygène, et donc très toxique puisqu'il y a une radioactivité naturelle et beaucoup de métaux lourds, et notamment donc les métaux qui constituent ces ressources qu'on voit de temps. Et bon, ça peut arriver aussi donc, que le fluide se mélange au niveau de la roche, et donc on va avoir des émissions qui sont à des températures plus faibles, voire même en dessous de 50 degrés. Il faut savoir que la faune qu'on trouve au niveau de ces sources hydrothermales, donc les vers et les modules que vous a montré Pierre-Marie, on ne va pas les retrouver à 300 degrés. On les retrouve en dessous de 50 degrés, mais ils sont dépendants de cette énergie qui est produite, mais on va les retrouver quand même à des températures plus basses. Donc nous, donc au laboratoire, on travaille principalement sur trois chantiers. Donc il y en a un, donc je pense que Pierre-Marie en a parlé, je ne sais plus si c'était Europa ou tout à l'heure. Donc c'est dans la zone économique exclusive française, donc autour des îles de Wallis et Futuna. Donc il y a eu une mission pour l'instant et on va peut-être y retourner l'année prochaine. Il y a aussi un site donc, au niveau de la dorsale médio-atlantique, donc de champs hydrothermaux. D'ailleurs, en ce moment même, on a des collègues qui sont sur le pourquoi pas au niveau de cette zone pour étudier les sources associées à cette zone. Donc ici, on est dans une zone de permis, donc un permis d'exploration de ressources minérales donc, qui sont donnés par l'Autorité internationale des fonds marins. Et notre troisième chantier, donc, sur lequel nous, on travaille plus particulièrement, c'est ici, au large des Açores, donc, où on a un observatoire dont je vais parler. Donc, on a 1700 mètres de profondeur. Ici, c'est à 3000 mètres. Et Wallis et Futuna, c'est beaucoup, beaucoup moins profond, mais je ne me rappelle plus de la profondeur. 850 mètres, donc beaucoup moins profond. Donc là, je vais quand même vous montrer un petit peu des images. Donc ici, c'est une vidéo donc, qui est justement prise sur la zone du permis français au niveau de Tag et Snake Pit. Donc là, on arrive ici donc sur une zone hydrothermale. Hein, donc on est un petit peu en périphérie. Les points blancs que vous voyez, c'est des crevettes, en fait. Donc là, on voit ici qu'il y a des émissions hydrothermales. Donc on commence à avoir une plus forte concentration d'animaux. Donc ici, c'est un site où on va surtout trouver énormément de crevettes. Donc dans l'Atlantique, il n'y a pas les grands vers qu'a montré Pierre-Marie. Et ici, très peu de moules sur ce site. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment des colonies avec des milliers de crevettes. Donc en se rapprochant, on va le voir, mais c'est des crevettes qui vivent en symbiose avec donc ces micro-organismes qui font la chimiosynthèse. Donc elles ont une grosse tête, comme si elles avaient deux gros yeux. Et en fait, elles ont des bactéries dans une poche qui vont utiliser le sulfure contenu dans le fluide pour faire la chimiosynthèse et donc apporter la nourriture nécessaire aux crevettes. Donc je vais avancer un petit peu. Et donc là, vous voyez, donc ici, donc c'est vraiment des grandes colonies de crevettes. Et vous voyez, donc il y a comme une sortie de fluide. On le voit ici un petit peu avec un moirage. Et en fait, les crevettes, elles vont tourner. Donc des fois, quand on les ramène, elles sont un petit peu brûlées. C'est parce qu'elles ont tendance à s'approcher un peu trop du fluide. Mais elles ont besoin du fluide pour aller chercher le sulfure pour leur symbionte. Mais il faut aussi qu'elles s'en éloignent parce qu'il fait trop chaud. Donc elles sont constamment en mouvement ici au niveau de la source. Donc là, on voit un petit peu on voit du fluide sortir. Vous voyez un petit peu des fumeurs noires ici. Et je crois qu'après, il y a un petit zoom dessus. peux pas voir avec.
Vous avez des collègues
en ce moment, oui. Ils sont partis avec le Nautil et donc là ils plongent pour aller collecter ces crevettes et donc vraiment essayer de comprendre le cycle de vie de cette crevette. Comment elles se reproduisent, quand c'est qu'elles vont acquérir, à quel moment de leur vie elles vont acquérir les symbiontes, où c'est qu'elles sont distribuées, parce qu'apparemment donc, c'est surtout des femelles ici. Les mâles sont situés ailleurs et ils ne savent pas trop, et les juvéniles encore moins. Donc il y a des différences de distribution en fonction des sexes des crevettes. Donc beaucoup de choses à apprendre, et donc voilà, là c'est vraiment pour montrer à pas cette profondeur. Donc là on est à 3500 mètres, je crois, Tagge Snake Pit. Donc à cette profondeur, non. Et là, vous voyez bien le fumeur noir qui sort donc tout en haut. Donc ça, vraiment, c'est une sortie de fluide pur. Donc des densités vraiment impressionnantes. Oups, pardon. Oui, là, là, maintenant que vous les avez vues, vous les voyez maintenant. Elles sont là. Et là, vous voyez quelques crevettes. Donc nous maintenant, donc par rapport à ce que Pierre-Marie vous a expliqué sur les ressources, donc on s'est vraiment axé sur une nouvelle question qui est quel serait l'impact d'une exploitation si on venait à exploiter les ressources minérales, quel impact ça aurait sur ces écosystèmes, parce qu'on connaît encore très très peu de choses sur ces environnements et comment ils fonctionnent, comment les espèces interagissent, et notamment parce que c'est des environnements qui sont quand même encore très difficiles d'accès. Donc l'accès au milieu profond, comme Pierre-Marie expliquait un peu plus tôt, en fait au début il y avait un peu cette course pour aller de plus en plus profond. Donc ça a commencé avec le bathyscaphe dans les années 50 par deux Américains, Beebe et Barton. Puis il y a eu le Trieste dans les années 60 qui a fait la fameuse plongée dans les Mariannes, donc jusqu'à 11 000 mètres, record qui n'avait jamais été battu jusqu'au fameux sous-marin de James Cameron en 2012, je crois. Et donc après, c'est plongé un peu record, donc on a commencé à développer donc les sous-marins scientifiques. Donc ça a commencé avec les Américains, il n'y est pas, mais le fameux sous-marin Alvin, donc qui accueille donc des pilotes, un pilote et deux scientifiques. Le Nautil de l'Ifremer, lui, a été développé en 1984, et après ça, on a commencé à développer des engins téléguidés, donc qui sont plus habités, donc qui sont contrôlés depuis le bateau, et donc qui permettent quand même un temps d'autonomie un peu plus grand au fond. Puis des engins hybrides qui sont à la fois autonomes, qu'on peut laisser partir, programmer et laisser partir pour une certaine période de temps, mais aussi qu'on peut garder accroché au bateau. Et enfin, je vais revenir un peu plus tard, maintenant, depuis une dizaine d'années, on a déployé des observatoires profonds. Donc là, on déploie vraiment des instruments au fond et on les laisse pour un an et on revient, ou plus. Hein, les instruments vont mesurer au cours du temps des données et on va revenir des mois, un an plus tard pour récupérer les instruments et faire la maintenance. Alors, tous ces instruments, on les déploie depuis, ils sont opérés depuis des gros bateaux. Donc ici, c'est le pourquoi pas, hein, le dernier bateau de l'Ifremer. Donc c'est un très gros bateau, 7 étages, il y a un ascenseur dessus. Et il fait 107 mètres de long, on est à peu près 80 sur le bateau pendant une mission, donc 35 de l'équipage, 40 scientifiques. Et il y a 250 mètres carrés de laboratoire. Donc c'est vraiment un laboratoire sur l'eau qui nous permet de faire beaucoup de choses quand les échantillons remontent du fond. Donc ici, c'est un exemple de fonctionnement avec le ROV Victor 6000, donc, qui est un robot télécommandé depuis le bateau. Donc là, vous voyez, il y a le bateau, donc on a le câble qui descend le ROV. Ici, c'est un lest. Ça permet de stabiliser, de rendre l'engin indépendant par rapport au mouvement du bateau, en fait. Donc le robot va se balader avec sa laisse autour de ce lest. Et donc il est équipé de plein d'engins, de pinces, d'échantillonneurs pour amener tout ce dont les scientifiques ont besoin. Et donc ici, c'est la salle de contrôle. Et donc voilà, il y a plein d'écrans, les pilotes sont là et les scientifiques vont pouvoir... L'avantage par rapport à un sous-marin habité, c'est que les scientifiques vont pouvoir venir tour à tour pour contrôler leur échantillonnage et leur expérimentation. Les outils pour travailler au fond, donc évidemment, vous imaginez que pour travailler à 2000 mètres, 3000 mètres de fond, on ne trouve rien sur étagère, et puis c'est des questions très pointues, donc la plupart des outils qu'on utilise, en fait, c'est des prototypes, c'est des choses qu'on développe au laboratoire avec nos ingénieurs et nos techniciens. Donc ici, par exemple, vous avez le... c'est moi qui... Non, je sais pas.
Il n'y a pas des
Pas à cette profondeur, non. Les baleines, je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur elles peuvent aller. J'ai vraiment aucune idée. Les requins, il y a des requins qui peuvent aller plus profond.
Il n'y a rien à remonter,
Bah, si, les crevettes que je viens de montrer sur le site. Là, vous voyez ici, il y a des verres. Donc là, ça montre tout ce qu'on fait. Donc ici, on va mesurer le flux. Donc ça s'appelle le flow. Donc il y a une règle graduée qui nous permet de mesurer la vitesse du flux. Et ici, on a une sonde qui permet de mesurer donc l'environnement. Donc ça va permettre de mesurer la température, les concentrations en oxygène, d'échantillonner aussi le fluide. Et là... Ici, par exemple, ça, c'est une carotte. Donc, avec ça, on va récolter des organismes qu'on va trouver dans le sédiment, par exemple. Donc, c'est une carotte qui est plantée dans le sédiment et il y a des lames qu'on va relâcher. Donc, ça va nous permettre de remonter des carottes. Ici, par exemple, donc ça fait pas très longtemps que ça a été développé. Ça s'appelle le périscope. Donc, ici, on voit qu'il y a des crevettes dedans. En fait, ça permet d'échantillonner sous pression et de garder la chaîne de la pression. Donc, on va échantillonner les crevettes, les rentrer dans le périscope, elles sont sous pression et elles vont remonter sur le bateau sous pression. Et à bord, donc ça c'est un collègue de Paris qui fait ça, il va avoir un aquarium sous pression, il va les rentrer dans un sas et en fait il va pouvoir ensuite les étudier dans un aquarium et les espèces n'auront jamais subi la dépressurisation. Et donc différentes caméras aussi, donc ici c'était une caméra. Mais... Alors on pourra revenir dessus après. Mais il y a de l'or, il y a de l'argent, et il y a surtout beaucoup de métaux très importants qu'on retrouve dans les écrans d'ordinateur, par exemple. On trouve du cuivre, du manganèse, et donc, par exemple, notre exemple, c'est tout ce qui est éolienne pour les énergies renouvelables, ou les panneaux solaires. Bah, c'est bien, mais c'est de l'équipement qui demande en fait des métaux qui sont de plus en plus rares sur la planète. Donc c'est un peu l'équilibre. Mais oui, ils contiennent des métaux qui sont importants pour plein de choses pour la société d'aujourd'hui. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est comprendre l'impact. Si on allait chercher ces métaux, qu'est-ce que ça ferait sur les environnements? Et donc voilà, on ramasse les organismes. Et il y a un autre problème qui est lié à étudier les grands fonds, en fait. C'est étudier l'évolution temporelle de ces communautés. Parce qu'avec les bateaux et les sous-marins, en fait, on va aller une fois sur place, on échantillonne, on peut revenir un an après, au mieux, 2 ans, 10 ans. Et en fait, on a juste des photos à un moment donné, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Donc, il y a eu d'abord des développements, bah, par exemple, de caméras qui ont été laissées au fond ou des systèmes de colonisateurs qu'on dépose. On récupère au bout d'un an, 2 ans, et on voit qui c'est qui a colonisé. Mais ça reste encore des images. Et puis les systèmes de caméras autonomes ne duraient pas beaucoup plus de certains mois et étaient quand même très limités en batterie pendant longtemps. Donc une des solutions qui a été imaginée par la communauté scientifique il y a presque 20 ans et qui a été mise en place il y a 10 ans, c'était d'étendre donc cette connexion Internet et d'amener l'énergie au fond des océans. Donc ça a été un peu le début des observatoires grands fonds. Donc il y a deux types d'observatoires, des observatoires autonomes sur batterie et des observatoires câblés. Donc ici, on est sur l'exemple d'un observatoire câblé. Donc on va avoir une station côtière qui va envoyer l'énergie à des instruments déployés au fond de l'océan. Et ces instruments qui échantillonnent, du coup, comme ils ne sont pas limités en énergie, vu que l'énergie arrive constamment, ils vont pouvoir échantillonner à haute fréquence, donc toutes les minutes pour certaines données, toutes les heures pour des caméras. Et les données vont être envoyées par fibre optique à travers le câble à la station, puis par Internet sur les ordinateurs. Donc l'avantage de ces observatoires, c'est qu'on va, sur un lieu, on va avoir une grande diversité de mesures environnementales, donc physique, chimique, les caméras pour la biologie, géophysique avec des sismomètres, des sonars, donc vraiment une étude intégrée en un point donné et sur le long terme. Par contre, on n'a pas accès à la diversité spatiale.
Là, c'est sous la mer ?
Oui, très profond, en dessous, tout au fond. Là, l'observatoire, je vous le montrais tout à l'heure, on peut avoir des sites de 20 mètres jusqu'à le site le plus profond. Amazon, on est à 1700, je dirais c'est Neptune à 2600 mètres.
Là, c'est
sous la mer. Sous la mer, ici, ouais, la surface. Et donc là, on est à 2,6 km, donc c'est une des montagnes élevées. Non. D'où, pourquoi j'insiste, comment fait-on pour y aller ? Moi, j'ai plongé une fois. Pierre-Marie a plongé plus souvent, mais... Et donc, sur ces observatoires, donc on déploie des caméras. Et donc, nous, au laboratoire, dans le contexte de ces observatoires, en fait, on a développé TIMPO, donc qui est un module d'observation pour les communautés hydrothermales. Donc Tempo, c'est quoi ? C'est une caméra avec 4 projecteurs. On a un câble ici avec des sondes de température qu'on déploie autour de l'image. Et un autre câble ici, donc il y a une petite canule donc qui permet de mesurer la température, l'oxygène et aussi d'échantillonner le fluide au niveau de l'assemblage qu'on étudie et qui va ensuite mesurer directement, on dit in situ, les concentrations en fer dans le milieu. Donc ça nous permet de suivre l'assemblage, leur évolution en lien avec les changements dans l'environnement. Et donc on a 2 versions de Tempo. On en a une sur notre observatoire au large des Açores sur l'Atlantique et une autre version sur l'observatoire câblé, cette fois-ci, Ocean Networks Canada, qui est au large du Canada, au large de l'île de Vancouver. Donc ces deux sites, donc, au niveau de l'Atlantique, on étudie des assemblages de modioles. Donc c'est, là, vous avez vu, je vous ai montré des vidéos avec plein de crevettes. Donc le site qu'on étudie, c'est des assemblages qui sont vraiment dominés par les modioles. Alors que dans le Pacifique, ça va être ces grands vers tubicoles avec des branchies rouges très caractéristiques qui permettent de capter le sulfure pour leurs symbiontes. Donc là, on est à 1700 mètres dans l'Atlantique et à 2200 mètres au niveau du Pacifique. Donc d'abord, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait sur l'Atlantique. Donc ici, c'est l'observatoire EMSO Açores, donc au large des Açores. Et là, vous voyez la bouée de surface, donc ici avec des panneaux solaires, hein, qui permet d'alimenter en énergie la bouée. Donc on est ici pour se situer. On est les Açores, donc là il y a le Portugal, les Açores, et donc sur la dorsale à 1700 mètres. Donc l'observatoire EMSO Açores, il ressemble à ça. Donc on a 2 nœuds d'énergie qu'on appelle Simon, donc ils sont équipés de batteries de lithium qui permettent de fournir l'énergie à des instruments câblés qui sont raccrochés à cette station. Donc au niveau, donc ici c'est le champ hydrothermal, donc c'est fait, il y a un grand lac de lave fossilisée. Et les sites hydrothermaux, donc avec les émissions de fluides, on va les retrouver autour du lac. Et donc on a un nœud qui est déployé ici à l'est, où il y a pas mal de sites. Donc c'est le nœud d'écologie auquel est raccordé notre module d'observation Tempo. Et à l'ouest du lac de Lave, on a un nœud plutôt géophysique, donc qui va permettre donc avec des jauges de pression et des sismomètres, donc ici c'est le nœud géophysique, de mesurer la déformation de la croûte terrestre et donc enregistrer tous les séismes et tous les mouvements de la croûte. Ici c'est le nœud écologie, donc alors, voilà, les batteries sont ici. Hein. Et donc là on a le nœud écologie, puis vous voyez le câble qui part, qui est relié donc, à Tempo, la caméra qui nous permet de suivre les assemblages. Donc voilà Tempo sur l'Atlantique, hein. On voit des petites moules ici derrière. Et donc voilà, ça c'est la première année d'enregistrement. Donc vous avez l'exemple ici, donc on voit l'évolution. Donc là c'est une image par jour qu'on voit ici. On enregistre à peu près 8 minutes de vidéo par jour. Vous voyez ici, il y a eu la croissance d'une petite cheminée, ici dans le rond, donc on a eu la chance d'observer ça. Et on a commencé à observer des choses intéressantes, comme par exemple ici c'est un polyquette, donc c'est un ver plat avec plein de petites soies, donc polyquette. Et c'est la même groupe que les arénicoles qu'on retrouve sur la plage ou les Néréis. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient un peu territoriaux. Ils revenaient souvent. C'est souvent au même endroit qu'on va les observer. Et on a fait les mêmes observations pour les crabes. Donc là, on a accès à des choses nouvelles comme le comportement, être capable d'observer les organismes dans leur milieu. Ici, c'est une autre année, hein, donc 2014-2015, plus récemment. Bon, là, elles sont tombées, mais on met des petites sondes de température dans le champ de vue aussi pour avoir une cartographie un petit peu de l'environnement et comprendre comment les espèces se distribuent en fonction de l'environnement. Donc là, je ne sais pas bon, si vous les avez vues, mais il y avait un tas de moules ici qui elles se sont toutes déplacées. On s'est rendu compte que ces moules étaient capables de se déplacer assez rapidement, mais on a quand même été surpris de les voir traverser le champ de vue. Donc je me suis même amusée à mesurer leur vitesse de déplacement. Et donc ici, c'est un exemple de résultat. Donc c'est un étudiant qui a fait ça, qui a compté le nombre de crevettes donc tous les jours et qui a regardé où elles étaient distribuées dans le champ de vue. Et donc il a compté des centaines, des milliers de crevettes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles vivaient en agrégation. Alors attention, ces crevettes, ce n'est pas les mêmes que je vous ai montrées, donc elles n'ont pas de symbiose. Elles se nourrissent de particules qu'elles trouvent dans l'environnement avec leur appareil buccal. Et donc on va les retrouver plus particulièrement situées dans le flux. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est à cause de l'environnement, est-ce que c'est parce que là qu'elles trouvent le plus de nourriture. Donc c'est des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on peut au moins imaginer des expérimentations pour essayer de répondre à ces questions. et de l'Atlantique au Pacifique. Donc je vais vous amener maintenant sur l'observatoire câblé Ocean Networks Canada. Donc ici c'est l'île de Vancouver, vous avez Vancouver qui est ici, Seattle par là. Donc c'est 800 km de câble. Donc le câble permet d'envoyer le courant et ramener de la fibre optique. Donc ici on est au niveau de la dorsale Juan de Fuca, donc il y a un site Endeavour qui est au niveau des sources hydrothermales. Les autres sites sont dans la plaine abyssale, 2600 mètres, au niveau de sources froides, dans un canyon et sur les zones côtières. Donc c'est un observatoire qui couvre énormément d'écosystèmes différents. Donc ça c'est un pomini sur l'Atlantique, donc ici on observe des vers ciboglinidés. Et juste à côté, ici, c'est un échantillonneur de fluide. Donc, c'est un collègue d'université de Washington à Seattle qui étudie la chimie du fluide à partir de cet échantillonneur. Donc là, voilà ce qu'on observe sur nos images du Pacifique. On a des gastéropodes. Ici, c'est encore des polychètes dont je parlais, des buccins, des petites araignées pycnogonides qui sont proches des araignées de nos maisons. Le ver Ridgea avec sa branchie qui est sortie, donc qui est rouge pour l'hémoglobine qui permet de capter l'oxygène pour les symbiontes, et des poissons zoarcidés qui sont vraiment des espèces que l'on retrouve au niveau des sources hydrothermales. Et là, juste une petite vidéo aussi pour le plaisir. Pour montrer quand même qu'on a, une très très bonne qualité de vidéo sur ces caméras maintenant. Donc là, juste pour vous rendre compte, ici, il y a un petit gastéropode, il fait la moitié de mon ongle du petit doigt. Donc on est en train de regarder des choses vraiment minuscules. Les pycnogonides, ils doivent faire 2 cm, ils sont très petits, 2-3 cm. Et donc là, vous voyez les vers. Donc ici, on voit bien la branchie qui est sortie, les pycnogonides qui se baladent au milieu des vers. Ici, on a des patelles, des gastéropodes. Et donc aussi pour vous montrer que c'est très très lent, donc analysez les images. Toujours sous la mer, je vais rester sous la mer jusqu'au bout. Je ne connais pas bien au-dessus. Et là, ce que vous voyez en fait quand c'est miroité comme ça, c'est parce qu'on a du passage de fluide hydrothermal. Donc ça veut dire qu'on va avoir de la température qui augmente. Donc, on a raté. Il y avait un événement et puis je l'ai raté. C'est quand l'araignée posait sa patte sur le ver. Toujours pas. Et donc ça, c'est juste un schéma pour vous montrer. Donc c'est un papier qu'on a récemment publié dans une très bonne revue, un étudiant à nous qui a fait une thèse, parce que c'était une grande avancée quand même pour la recherche en milieu profond. C'était de mettre en évidence le rôle de la marée sur justement ces communautés des grands fonds. Exactement, je suis contente d'avoir une réaction. À 2000 mètres, on mesure... on le savait parce qu'on le mesure sur l'environnement, en fait. On voyait bien que les changements de température, de courant se faisaient au rythme de la marée, mais on pensait qu'il pourrait peut-être y avoir un impact sur les organismes. Et en fait, on s'est rendu compte que oui. Alors ça a commencé avec une étudiante en thèse qui a compté des milliers de vers à regarder s'ils étaient sortis ou rentrés. Et elle s'est rendu compte qu'ils sortaient et qu'ils rentraient au rythme de la marée. Et donc l'hypothèse, c'était qu'en fait, en fonction du fluide qui se balade, ils vont rentrer ou sortir en fonction de leurs besoins. Et en étudiant plus récemment, lui a compté, a essayé d'observer un peu les rythmes, les activités des pycnogonides et des polychètes. Et donc il y a des fois, on ne voit pas beaucoup de pycnogonides ni de polychètes, des fois on en voit beaucoup. Et en fait, il s'est rendu compte aussi que ces changements se faisaient au rythme de la marée. Et ce qu'il a observé, c'est que quand on était... sous une certaine condition de courant, on allait avoir des conditions environnementales avec des températures plus faibles et beaucoup d'oxygène, et c'est là qu'on observait le moins d'animaux. Et à l'inverse, quand les courants échangeaient, on allait avoir des conditions moins optimales, en tout cas des plus sévères, avec des températures plus élevées et des conditions avec moins d'oxygène, donc un peu plus hypoxique. Et là, on avait les animaux à la surface du buisson. Donc son hypothèse, c'est que vraiment, quand les conditions sont optimales, les espèces vont aller dans le tube pour trouver à manger et se protéger des prédateurs. Et quand les conditions sont moins bonnes, elles vont avoir tendance à remonter à la surface de l'assemblage pour essayer de trouver un petit peu d'oxygène et des meilleures conditions. Et il a aussi observé qu'on avait un rythme à l'échelle de 4 jours et 16 heures qui correspondent, surtout en hiver, qui correspondent à un rythme qui est généré par les tempêtes de surface. Donc ça a été vraiment une grande avancée parce qu'on a pu le montrer. Et en plus, ça veut dire qu'avec du changement climatique, avec le changement des régimes de tempête, bah finalement, on peut croire que l'océan profond, il va pas être affecté par ces changements de surface. Mais en fait, on vient de montrer que si, il pourrait y avoir sûrement une influence en termes d'activité rythmique, de cyclicité d'activité chez ces organismes. Donc c'est à partir d'imagerie qu'on a fait ça. Mais pour finir, je voulais juste vous montrer que donc les imageries, on enregistre 780 heures de vidéo par an. On a 7 ans d'archives actuellement. Donc plus de 50 000 fichiers. Donc c'est surtout des images du Pacifique et un petit peu d'Atlantique. Et pour vous donner une idée, donc 780 heures par an, vous multipliez par 7 ans, je ne sais plus où on en est, mais on en a plus de 100 000, ouais, je sais plus. À 100 000 heures de vidéo, je crois. Et pour analyser, pour l'étude qui a été faite par l'étudiant sur les crevettes, pour analyser 10h40 de séquences vidéo, il y a passé 240 heures de son temps. Donc autant dire que ça prend du temps. On a des stagiaires, des thésards, mais ça ne suffit pas pour traiter toutes ces images. Donc on a besoin...
Vous parlez de crevettes. C'est les crevettes, comment
j'y reviendrai après. Je déconseille de les manger, hein, parce qu'elles sont très chargées en sulfure. Je vais finir, on y revient après. On reparlera des crevettes après, ok? Et donc là, on a décidé de se tourner vers vous et demander de l'aide aux citoyens, en fait. Et donc l'idée, ça a été de développer, parce que, bon, avant ça, on a essayé de travailler un petit peu sur le développement de méthodologies automatisées avec des chercheurs en informatique, mais vous avez vu que c'est des images assez complexes, donc ça marche pas très bien. Donc l'idée, c'était un peu de se tourner vers les citoyens et de demander de l'aide, pour tout simplement, parce que finalement, les tâches sont pas si compliquées. Aller compter des buccins, des polychètes, des poissons. Dans l'Atlantique, ce sont des crabes, des moules et des crevettes. Et donc l'idée, ça s'appelle Espion des grands fonds. Si vous vous connectez sur Internet, vous pouvez créer un compte. Et donc vous allez avoir une mission. Donc il y a un avancement de la mission qui est par tous les joueurs. Donc c'est fait sous forme d'un jeu, un petit peu gamifié, comme on dit, et avec donc des classements par pseudo. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, vous êtes comme dans un sous-marin, vous arrivez au fond. Et là, on vous demande, vous avez une liste d'espèces, et donc vous devez les annoter, donc trouver les buccins, les pycnogonides, et tout ça, c'est enregistré dans notre base de données, et nous, derrière, ça nous permet de mener des analyses, et ça nous aide à traiter les images plus rapidement. Donc voilà, ça c'est un projet qu'on a mis en place au mois de mars, hein, donc on a collaboré avec Océanopolis, à Brest, on a une borne à Océanopolis, on est présent dans pas mal d'événements, donc là j'ai une collègue qui a présenté le jeu à notre ministre, lors de la fête de la science à Paris. Et donc on commence aussi, donc on a un poster et donc on commence à travailler avec les enfants surtout et dans le cadre donc de programmes aussi pédagogiques. Donc on participe à Immersion Sciences qui est un programme de Bretagne donc qui est là, qui est ciblé pour les étudiants au lycée. On a développé aussi des livrets pédagogiques donc pour être distribués aux professeurs des écoles hein, pour les enfants des cycles 2 et cycle 3. Et donc on participe aussi à pas mal de programmes avec Océanopolis, notamment Jeune Reporter des Arts et des Sciences, où les enfants doivent traiter un sujet scientifique et en faire une pièce, une œuvre d'art. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui. Donc à retenir, ce qu'on voudrait que vous reteniez, c'est que ces écosystèmes profonds sont très diversifiés, ils sont en constante découverte, hein, donc on est loin d'avoir... d'avoir découvert toutes les espèces et peut-être même pas tous les écosystèmes qui existent dans le fond des océans. Les observatoires, c'est vraiment la dernière des technologies qui a été développée et nous apporte beaucoup d'informations, surtout pour tout ce qui est temporel, en fait, et nous permettre d'étudier les espèces in situ plutôt que de juste les échantillonner et les ramener à bord. Donc c'est vraiment une révolution dans l'étude de l'océan profond. C'est aussi donc de nouveaux défis pour permettre une exploitation durable des ressources marines. Donc nous, c'est un peu notre ligne en ce moment, c'est essayer de comprendre un peu l'impact et qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait aider à les protéger. Je voulais dire ou s'il faut vraiment les exploiter de façon le plus durable possible. En tout cas, essayer de donner des conseils, mais oui, le protéger dans l'absolu. Et enfin, si ça vous a plu, vous pouvez nous aider, devenez un espion des grands fonds et connectez-vous sur deepseaspy.com. Et puis pour finir, toujours la phrase qui est toujours là, mieux que nous prendre le milieu naturel, c'est se donner les outils pour mieux le protéger. Et voilà ce qu'on voulait dire. C'est pas un requin, mais c'est de la famille, c'est un cartilagineux, c'est pas très loin. C'est pas vrai. C'est pas une crevette. C'est une chimère. C'est une chimère et le nom. Hydrolagus. Et Hydrolagus qui est du coup un cartilagineux qui appartient à la grande famille des requins et des raies.
Mais c'est gros comme une baleine.
Ça, c'est grand comme, je sais pas, 50 cm la chimère. Plus. En mètres. Ouais, entre 50 cm en mètres. Ouais, comme ça. C'est gros quand même, ouais. On en voit de temps en temps, rarement. 2-3 fois par an, elle passe devant la caméra. Voilà. Bah, merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, voilà. Et je vous laisse avec une belle image de verre, si beau que l'inidé.
Merci à tous les deux. Et puis maintenant, ben, si vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas. La parole est dans la salle.
On a vu pour l'essentiel des micro-organismes, mais on nous parle d'espèces plus grandes. Est-ce que vous les étudiez? Et est-ce qu'il y en a?
Les plus grandes?
Oui.
Alors nous, on n'étudie pas les poissons.
Et on ne vous a pas parlé toujours de micro-organismes. Il y a des microbes,
oui,
effectivement, à la base de la chaîne alimentaire. Mais toutes les photos que vous avez vues, c'est des organismes qui font partie de la méiofaune et de la macrofaune, donc des tailles qui sont en dessous du millimètre.
Le classement, en fait, c'est... Donc les micro-organismes, c'est vraiment ce qu'on ne voit pas, ce qu'on va voir au microscope ou à partir d'approches moléculaires. Ensuite, il y a la méiofaune qui est en dessous de 63 microns, donc qui est quand même petite. Ensuite, on va parler... Non, au-dessus de 63 microns, entre 63 et 300 microns. Et après, tout ce qui est au-dessus d'un demi-millimètre, on parle de macrofaune. Et ensuite, on va parler de mégafaune. Donc, c'est ce qui est vraiment plus grand. La chimère, par exemple, serait de la mégafaune. Et souvent, on utilise le terme mégafaune pour parler des organismes qu'on voit sur une caméra. Mais ça a de moins en moins de sens parce que nos caméras sont de plus en plus sophistiquées et qu'on commence à voir des choses bien très petites quand même. Mais donc nous, on étudie un peu tout jusqu'à la macrofaune, même mégafaune, mais surtout sur les séries temporelles, on va s'intéresser aux animaux qui sont tout le temps dans le champ de vue et qu'on peut vraiment suivre. Donc on est plutôt dans de la macrofaune ou jusqu'à quelques centimètres.
Pardon ?
Bonsoir. Est-ce que ces profondeurs, on détecte un impact de l'acidification des océans ou des changements des courants ou de température?
Alors, c'est une très bonne question. On commence à les détecter. On commence aussi à réfléchir à instrumenter nos observatoires fond de mer avec des capteurs qui soient capables de les détecter. Un changement climatique qui se passe en surface, 1 ou 2 degrés en surface, ça va être quelques dixièmes, voire centièmes de degrés sur le fond. Donc, mais on est vraiment en train de se poser cette question, quel va être l'impact du changement climatique sur les organismes en profondeur. Et après, on est aussi en train d'essayer de voir si on a un impact, par exemple, des microplastiques sur ces organismes fond de mer. Et la question de fond aussi, c'est on s'intéresse de plus en plus aussi au lien entre le fond et la surface. Jusqu'à maintenant, on avait des représentations de l'océan très stratifiées avec des couches d'eau très, très bien définies. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus chaotique que ça, si je puis dire, avec des tourbillons qui vont monter, descendre et donc des pompes dans les deux sens entre le fond et la surface. Donc c'est des environnements qu'on pensait il y a quelques années très protégés, très isolés, avec peu d'impact de l'homme, et en fait on s'aperçoit qu'il y a énormément d'échanges entre le fond et la surface qu'on est capable d'étudier avec les nouvelles méthodes de modélisation numérique, de mesure des courants, de choses comme ça.
S'il vous plaît.
Ils sont sur le pourquoi pas, le bateau que j'ai montré, et donc ils sont avec le Nautil. Donc eux, ils sont sur le bateau. En fait, le bateau, c'est vraiment comme une petite ville où les scientifiques y vivent, il y a les cabines, il y a les repas, il y a les laboratoires. Et le Nautil plonge une fois par jour. Donc tous les jours, c'est un scientifique différent qui descend dans le Nautil pour faire tout l'échantillonnage. Donc ils sont à peu près 40 scientifiques, tout le monde ne plongera pas, mais bon, il y aura une vingtaine de scientifiques qui vont plonger. Mais sinon, quand on est en mer, pour un mois ou plus, on vit sur un bateau.
Mais vous avez, comme outil de travail, il y avait les
scaphandres ? Non, c'est un sous-marin. Non, on ne fait plus le scaphandre. C'est un sous-marin. Le Nautile, il est habité. C'est un gros sous-marin jaune. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image. Il est assez... Il est assez réputé, donc c'est une, dans une sphère, et donc il y a trois personnes qui vont être dans une toute petite sphère, et donc c'est là-dedans qu'ils descendent. Et on a maintenant aussi des sous-marins, ouais, t'as l'image. Ouais, un petit peu. Mais on va plus profond que Cousteau. Tu vois, voilà. Donc ça c'est le Nautile. Et donc là, on voit les fenêtres du Nautile. Donc il y a deux pilotes et un scientifique. Et donc là, on voit un plongeur. Donc ça donne une idée de la taille du sous-marin. Donc les plongeurs font toutes les vérifications. Quand le Nautile est mis à l'eau, les plongeurs font les vérifications, accompagnent le Nautile sur les premiers mètres. Et après, il est lâché. Et... Oui ? Là, il est sous la mer, ouais. On voit la surface. Les bulles de la surface. Mais ils remontent, hein. Tous les soirs, ils remontent sur le bateau.
Il n'y a pas de requins, il n'y a pas de...
Là, il y a des requins, par contre, à la surface. Ouais. Ouais, les plongeurs, d'ailleurs, ont des... ils ont des couteaux, d'ailleurs, dans, le... dans leur...
Mais les requins, c'est des gros poissons. Il y a des baleines, des requins.
Des baleines, non.
Excusez-moi, vous avez parlé de l'exploitation des grands fonds. De l'impact climatique, mais qu'en est-il de l'impact de la pollution, en fait ? Vous étudiez l'évolution de la pollution ?
Il y a Inge qui a fait un papier sur, dans les canyons sur l'impact des déchets.
Et on constate une augmentation, un impact de plus en plus fort ?
C'est très dilué, donc il faut que les méthodes analytiques suivent, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des publications qui montrent qu'on va retrouver des microplastiques, des toutes petites particules de plastique jusqu'au fond d'océan. Donc on commence vraiment à se poser ces questions, justement, à partir du moment où on met en évidence qu'il y a des échanges très très importants entre le fond et la surface, on commence à essayer de mesurer ces impacts-là. Par exemple, des choses qui se faisaient il y a une trentaine d'années, on a évoqué la possibilité d'aller immerger des déchets nucléaires au large du golfe de Gascogne, donc à 1500 mètres de profondeur. Maintenant, c'est quelque chose qui serait complètement impensable, puisqu'on s'aperçoit que 1500 mètres de profondeur, c'est vraiment juste à côté.
On en voit quand même de plus en plus des déchets au fond, même dans des zones où il n'y a pas... Enfin, on les voit. Quand on a des zones où il n'y a pas forcément eu d'humains, on voit bien que c'est transporté. On va trouver... Moi, j'ai souvenir sur Neptune, où on trouvait des marmites au fond à 2600 mètres. Voilà, des objets de cuisine qui n'ont rien à faire là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est... C'est un phénomène qui grandit quand même.
Une image qui a circulé aussi, c'était au large de Marseille. À plus de 1000 mètres ou 1200 mètres, il y avait une poubelle qui était là, qui avait été charriée sûrement par les courants, par le fleuve, et qui était arrivée à plus de 1000 mètres de profondeur. Mais effectivement, on s'aperçoit, quoi qu'il arrive, que tout ce qui va arriver par les fleuves, par les eaux pluviales, va se retrouver dans l'océan, et un jour ou l'autre, par accumulation, on va le retrouver. Et les crevettes, on ne les mange pas.
Non.
Il est parti, je crois. Ah, question. Attendez, je passe le micro 2 secondes.
J'avais juste une petite question. Déjà, merci pour l'intervention. Au niveau des outils que vous mettez en place, vous avez énormément de capteurs, énormément de données à collecter. Au niveau analytique, ça doit être quelque chose de colossal. Est-ce qu'après, c'est des informations que vous partagez avec d'autres équipes au niveau international ? Vous les mettez peut-être à disposition et en échange aussi, vous pouvez peut-être profiter effectivement de leurs données pour confirmer, infirmer tel ou tel scénario. Je me doute bien que le travail est juste énorme, d'une manière générale, mais peut-être avoir... des informations supplémentaires ?
Je vais te donner un premier élément, tu auras sûrement autre chose à dire. Oui, l'idée des observatoires, de toute façon, c'était ça, effectivement, que les données soient libres pour tout le monde. Donc, Oui, l'idée, c'était ça. Idéalement, c'est d'avoir plusieurs équipes qui vont travailler sur les mêmes données. Mais en fait, en pratique, on se rend compte que on va pas travailler sur les données qui ont été prises quelque part dans un environnement qu'on connaît pas. On connaît pas quelle était. Alors, il y a des choses comme la calibration de l'instrument. On essaie de faire des efforts sur les métadonnées pour avoir ce genre d'informations là. Mais finalement, on va pas chercher les données des autres parce que pour analyser et interpréter des données, mine de rien, on a besoin d'un petit peu de la connaissance du milieu. Et quand on l'a pas, on n'est pas très à l'aise. Et en fait, on se rend compte que c'est une chose qu'on espérait quelque part au début avec les observatoires, mais que ça fonctionne pas si bien que ça. En tout cas, dans nos domaines. Après, peut-être plus sur les courants et la température, c'est peut-être plus applicable. Mais je sais pas, ça fonctionne pas encore très très bien quand même.
Non, mais par contre, il y a une directive européenne qui s'appelle INSPIRE, je crois. Nous, tous les travaux qu'on vous a présentés sont financés, on va dire, à 80-90% par de l'argent public. On bénéficie de financements européens et cette directive nous oblige à rendre public les résultats qu'on va obtenir justement pour que plusieurs équipes s'en emparent. Actuellement, et Marjolaine a raison, sur les observatoires, on peut avoir deux types d'observatoires. On va avoir des observatoires, des séries temporelles qui datent de très longtemps. Par exemple, tout ce qui est lié au climat, les séries temporelles de température datent déjà de plus d'une centaine d'années. Donc là, c'est des capteurs qui sont, on va dire, génériques. Et cette donnée est relativement facile à partager. On a toutes les données qui sont acquises par les satellites aussi, qui vont être... une équipe ne va pas pouvoir se permettre de lancer un satellite. Par contre, on va avoir des équipes spécifiques de modélisateurs qui vont assimiler ces données, proposer des modèles de circulation. Là, on est vraiment dans des capteurs prototypes. Donc effectivement, il faut, avant de pouvoir utiliser cette donnée, il faut connaître la conception du capteur, il faut l'avoir presque... Donc on est presque dans une phase d'artisanat de l'observatoire par rapport à tout ce qui se fait en physique ou en circulation océanique. Mais le but ultime, effectivement, c'est toutes nos données. Vous pouvez aller vous connecter sur le site Deep Sea Spy, sur le site Océan de Neptune Canada, sur le site EMSOASSOR. Vous pouvez les voir en temps réel, les données qui sont acquises. Vous pouvez les télécharger, les utiliser comme vous voulez, sans même avoir l'obligation de nous remercier en retour. Donc l'objectif, juste une petite pique, mais l'objectif de l'Europe, à partir du moment où on est financé, c'est de faire en sorte que la donnée soit utilisée au maximum, et effectivement, comme c'est un travail énorme, mais sur la partie profonde, on est tout juste au début de cette accumulation de matériaux.
C'est passionnant, il reste plein de choses à découvrir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, merci encore à tous les deux pour vos interventions. Et puis, bon retour et bonne fin de soirée à tout le monde. Voilà.
Merci. Au revoir.
Merci. C'est difficile.
C'est quelqu'un qui vient assez régulièrement.
Donc, voilà. Non,
mais il a pris sa question. Voilà.
Vous ne prenez pas que c'était sous l'eau.
C'est gag, mais qui
se fait. Par rapport aux images, que ce serait bien avec les vidéos qu'on puisse mettre des captures d'écran éventuellement du site que vous avez montré là.
Oui.
Mettre un bout.
Oui, bah,
pour les vidéos.
Oui,
bah, surtout celle de Tempo pour le coup.
Ouais.